Bonjour à tous et bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre avec la rédaction et les auteurs de la revue dessinée qui vous est proposée par la Bibliothèque publique d'information. Alors la revue dessinée, puisque vous êtes parmi nous, vous devez avoir une petite idée de ce dont il s'agit. Je vais tout de même en dire un mot pour commencer, puis nous aurons toute la durée de cette rencontre pour approfondir la question. La revue dessinée, c'est donc une revue d'information et c'est en même temps une revue de bande dessinée. C'est une revue de reportages dessinés ou de bandes dessinées de reportages. Le numéro 1 sort officiellement la semaine prochaine, mais on a la chance de pouvoir vous le proposer en avant-première aujourd'hui grâce à la librairie Flammarion. Alors pourquoi ce projet nous a interpellés, nous, à la BPI ? Pour plusieurs raisons. D'abord, vous le savez peut-être, à la bibliothèque, on organise tous les ans un festival qui s'appelle Cinéma du Réel et qui est consacré au cinéma documentaire. Donc l'idée de parler du monde, de l'actualité, de faire du documentaire en recourant au langage des images, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis d'autre part, vous allez le voir, la revue dessinée, c'est un projet qui est très original et très audacieux. C'est audacieux d'abord de lancer un nouveau titre de presse en ce moment. Et c'est audacieux d'investir le territoire du numérique, puisque la revue est publiée simultanément en kiosque, en librairie et sur tablette, sur iPad pour être plus précis. Donc la création d'une revue, c'est forcément une aventure, et pour parler de cette aventure qui se concrétise aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres de la rédaction et deux auteurs qui ont contribué au numéro 1. Donc de gauche à droite, Franck Bourgeron, qui est rédacteur en chef de la revue, qui est également auteur de bande dessinée et qui est à l'initiative du projet. David Servenet, qui est journaliste, qui est passé notamment par RFI, par Rue 89, OVNI. Donc David, dans la revue, je crois que vous êtes chargé des relations avec les journalistes. On a donc les deux hémisphères de la revue qui sont représentés, la bande dessinée et le journalisme, le reportage. Du côté des auteurs, Hervé Bourris, donc dessinateur, qui a signé de nombreux livres, et en particulier des livres consacrés à la musique, comme le Petit Livre Rock ou 45 Tours Rock. Dans la revue, Hervé dessine une chronique, un peu décalée sur l'histoire de l'informatique, qui s'appelle Passion Byte. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, il vaut mieux.
Ok. Et enfin, Marion Montaigne, qu'on ne présente plus, auteur du blog Tu mourras moins bête, blog de vulgarisation scientifique, c'est ça. Blog qui est également publié en papier par Ankama. Et Marion propose dans la revue un reportage en deux parties, consacré aux zoos du Jardin des Plantes. Donc Franck, je disais que la naissance d'une revue, c'est une aventure de longue haleine. En l'occurrence, pour vous, ça a démarré il y a près de 2 ans,
oui,
c'est ça ?
Précisément.
Ouais. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la genèse du projet. On peut voir derrière nous la couverture du numéro 1 qui est signé JP. Une très belle couverture qui représente, on peut le supposer, un dessinateur qui a non pas un couteau entre les dents, mais un crayon. Donc j'aimerais savoir s'il y a un message derrière cette couverture, dans la mesure où votre projet naît d'un coup de gueule et même d'un coup de colère, je crois.
Disons que, en fait, quand on a fait le brief avec JP au sujet de cette couverture, c'est vrai qu'on lui a dit notre volonté manifeste d'être des auteurs et un alliage entre des journalistes et des auteurs qui partaient pour croquer le monde. Et évidemment, tout en faisant le brief d'une manière très simple par Skype, JP très 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 simplement s'est mis à nous crayonner le portrait que vous avez là, avec le personnage, avec le crayon entre les dents. Et immédiatement, on a dit, hop, tu touches plus, c'est bon, on est sur cette idée-là, et on est parti sur ce mode-là. Alors évidemment, nous, ça correspond à notre ambition, c'est de relater le monde, et d'y aller avec un esprit aventurier, c'est évident, mais on s'attend à des difficultés, hein, on n'est pas complètement des enfants ni naïfs, donc on sait que c'est en effet une grande aventure de monter une revue. C'est né il y a 2 ans, à un moment où, alors on pourra en reparler, mais je pense qu'il y avait une situation pour les auteurs de bande dessinée, de manière générale, un peu compliquée. parce qu'on pense que c'est un monde en effervescence, mais pas du tout. C'est un monde en effet en effervescence, mais il y a une forme de restriction, un peu des possibilités de création pour les auteurs. Au bout du bout, il y a toujours l'album comme finalité, et qu'on pensait, d'ailleurs avec Hervé et à d'autres, parce que je crois que la discussion qui a permis de faire naître la revue était un repas avec Hervé, avec Christophe Gauthier, etc. Et on pensait, on s'est dit à un moment donné qu'il fallait redonner des possibilités de création à des auteurs. Et il y avait un paysage qui se dessinait d'un point de vue un peu politique, un paysage qui faisait qu'il y avait une crise dans la presse, qu'il y avait l'arrivée du numérique, qu'il y avait cette crise un peu existentielle des auteurs de BD qui sont arrivés dans le paysage depuis une dizaine d'années. Il y avait une conjonction donc de facteurs qui faisait qu'à un moment donné, il y avait une possibilité de faire ça. Parce que en effet, le numérique aujourd'hui permet de trouver des financements, par exemple. La crise de la presse permet de rencontrer des journalistes qui ont envie de trouver des formats différents. Je pense que David en parlera, mais il y a aussi chez les journalistes une demande, un désir de pouvoir faire plus long, de pouvoir faire autrement, d'aller chercher sur des modes d'expression, etc. Et puis nous, encore, je le répète, du point de vue des auteurs de bande dessinée, on a ce désir ardent d'essayer d'explorer d'autres modes de fonctionnement plus collectifs, d'autres modes d'expression avec une pagination différente, des formats différents, l'apport du numérique, etc. Donc voilà, la revue dessinée est née de ce mélange de strates comme ça qui se sont interpénétrées.
Et le coup de gueule, donc, il était vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis de la frilosité des éditeurs en matière de numérique.
Oui.
Ouais.
Non, il y avait une espèce de marasme absolu. Il y a le numérique qui était déjà bien installé, qui était bien développé aux États-Unis par exemple, et nous, il se passait strictement rien. Ou des espèces de tentatives comme, comment ça s'appelle, Isneo, je sais pas trop quoi, de réutilisation de choses déjà existantes. C'est complètement incontrôlé par les auteurs, on nous imposait les choses. Il n'y avait pas de projet vraiment créatif qui se montait.
Autour de la question des droits, il y a un conflit qui dure depuis assez longtemps entre les auteurs et les éditeurs.
Qui est toujours pas réglé, c'est le blocage, enfin je sais pas, c'est avancé, non, c'est toujours la même, un petit peu. Bon, bref, oui, on était dans une situation difficile, il y avait la surproduction qui existe toujours, mais il y a 2 ans c'était vraiment le marasme total, effectivement, et même pour signer des projets un peu plus créatifs, un peu différents, enfin, moi je sais que j'ai suivi une quantité incroyable de refus, comme s'il y avait un blocage, j'étais pas le seul, à chaque fois que j'en parlais avec mes collègues, c'était le même problème. Donc effectivement, quand Franck a eu cette idée-là, ça a été un début d'ouverture et de...
Et l'idée initialement, c'était de faire du numérique, c'est ça? Le projet était numérique initialement à 100%?
Oui, je crois.
Oui, à l'origine, mais forcément parce que c'était la seule porte qui s'ouvrait à nous. Il faut bien voir que quand on est auteur, on a un paysage qui se dessine devant nous, très institutionnalisé, avec des maisons d'édition, avec des interlocuteurs qui se raréfient d'une certaine façon parce que le nombre d'éditeurs a tendance à se raréfier. Et donc on était contraint, on a ce paysage qui se dessine qui est assez simple. Donc c'est vrai que dès lors qu'arrive un nouvel élément qui est le numérique, avec une possibilité d'utilisation de ce champ-là, comme ça, a priori plus simple, plus léger. Donc ça redéfinit un peu ça relance le jeu, quoi. Et puis, on sait aussi qu'on a une force collective de création, les auteurs. Parce que quand on discute, on discute de ça. Et on se rend bien compte qu'en utilisant ces outils-là, qui ne sont pas des outils extrêmement complexes, avec un haut-parleur et une volonté, je pense qu'on peut arriver à faire bouger beaucoup les choses. Donc c'est ce qu'on a fait. Le numérique a été pour nous, en effet, un déclencheur. Après, on s'est vite rendu compte, parce que la situation, elle est ce qu'elle est, que pour l'instant, la bascule, c'est-à-dire le fait que les gens lisent plus en numérique que sur papier, n'est pas encore ici, en France, le cas. C'est le cas, je crois, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais pas ici. Et donc, dès lors que vous commencez à établir des chiffres et un bilan et à regarder où on va financièrement, vous vous appuyez sur quelque chose qui n'est pas totalement encore bien positionné. Alors, vous revenez au papier, parce que le papier, vous avez des bases.
Donc, c'est comme ça que le papier s'est imposé.
Oui, et puis surtout aussi parce qu'à un moment donné, après réflexion, on a considéré que la revue dessinée, ce n'était pas simplement une finalité. Enfin, c'est pas une revue. Ça va être un lieu de rendez-vous, de là où on va trouver du reportage, de l'info, du dessin, de l'expression graphique, etc. Et qu'il fallait être présent sur tous les modes possibles en ayant cette ligne éditoriale-là. Donc c'était le papier, ça va être un site numérique, et ce sera une application iPad. Mais donc, vas-y, je te laisse.
Non, juste pour ajouter peut-être deux petites choses concrètement sur le numérique, c'est qu'il y avait en fait, depuis plusieurs années, il y a des négociations entre les auteurs en général, et notamment le syndicat national des auteurs de bande dessinée, et le syndicat national de l'édition, qui est le syndicat qui représente les patrons de l'édition, autour de la question des droits numériques, sachant que, grosso modo, pour résumer le paysage et le débat, les éditeurs veulent maintenir le système de la protection juridique de la propriété 70 ans après la mort de l'auteur pour ses ayants droit, donc un peu ad vitam aeternam, alors que les auteurs estiment que les négociations, quand vous signez un contrat en fait, d'exploitation d'une œuvre, pour le numérique, ça devrait être beaucoup plus court, ça devrait beaucoup plus s'adapter en fait aussi aux technologies. Et donc ces négociations n'avancent pas, sont bloquées depuis plusieurs années. Et c'est aussi ce qui a mis un petit peu la puce à l'oreille, puisque parmi les cofondateurs de la revue, il y a un certain nombre de gens qui étaient engagés dans ces discussions, qui en ont eu un peu assez de se faire, on va dire, un peu balader par les patrons d'édition. Et il y a donc aussi l'idée dans ce projet de faire évoluer via les outils numériques la nature de ces contrats. J'en dis un mot, c'est un petit peu technique, mais je pense que les auteurs qui y participent y sont sensibles. Dans les conditions que nous proposons aux auteurs, il y a la libre exploitation de leurs droits numériques. C'est-à-dire que nous, on a la possibilité de l'exploiter via donc, la petite tablette d'Apple, mais après, les auteurs, eux, ont l'entière liberté d'utiliser dans l'espace numérique leurs histoires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est économique. Pourquoi 1%, 1,5% du chiffre de l'édition en France repose sur le numérique, alors qu'on est à 23% aux États-Unis, 12% au Royaume-Uni? Une des raisons importantes, c'est que l'offre numérique commerciale qui est faite par les éditeurs n'est pas tellement adaptée au développement du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez par exemple des exemplaires numériques d'une œuvre qui coûtent plus cher que le livre de poche. Vu les habitudes de lecture des gens, forcément, on va plutôt encore se tourner vers le livre de poche. Et là, nous, on a beaucoup réfléchi à ça, parce que, évidemment, comme tout le monde, on s'est posé la question de savoir combien on allait vendre donc, le papier et la version numérique. Donc le papier coûtera, la version papier coûtera 15€ vendue en librairie, pas en kiosque, je rectifie par rapport à ce que vous avez dit, donc dans les librairies, et 15€ pourquoi? Parce que bah, imprimer 228 pages avec la qualité qu'on a voulu y mettre, etc., ça a un coût, le distribuer aussi ça a un coût, et donc voilà. En revanche, on a la possibilité sur le numérique d'offrir le même contenu, et même un petit peu plus, puisque parmi ce qu'on appelle les bonus, sur chaque histoire, il y aura en plus de la vidéo, de la photo, des choses qu'on ne pourra pas trouver évidemment dans le papier. Et tout ça pour 3,59€. Voilà. Avec l'idée aussi, derrière, de proposer quelque chose qui soit accessible, y compris à des jeunes lecteurs, parce qu'une des motivations, je pense aussi, qui nous anime, c'est de faire en sorte de peut-être redonner un petit peu de goût pour la lecture de l'information et la découverte d'une information de haute valeur ajoutée, on va dire, enfin en tout cas une information de qualité, aux jeunes qui, d'après ce que nous disent beaucoup, d'ailleurs on a beaucoup discuté avec des bibliothécaires, les jeunes aujourd'hui décrochent par rapport à la lecture de la presse à partir du lycée, c'est-à-dire qu'au collège ils lisent encore, il y a toute une presse pour la jeunesse qui est assez active, mais à partir de 15-16 ans, très souvent ils décrochent, et là nous on s'est dit, via la bande dessinée, on peut proposer aux jeunes de 15 à 77 ans, voilà, une autre approche en fait de l'information.
Pour en revenir au numérique, le numérique ça ouvre pas mal de possibilités pour les auteurs, notamment d'auto-édition, d'auto-publication. C'est le cas pour la bande dessinée, mais pour la littérature de façon générale. l'idée de la revue dessinée, c'est pas de tourner le dos non plus aux éditeurs traditionnels, puisque je crois que vous travaillez avec Futuropolis, c'est ça? Donc quelle est la nature de l'implication de Futuropolis dans ce projet?
Futuropolis est un éditeur.
Oui.
Il a été intéressé par notre projet parce que sa ligne éditoriale traverse la nôtre. Enfin, je sais pas, traverse, c'est pas un mot, mais enfin, évidemment. Tangentielle de la nôtre, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est pas non plus très joli, mais en tout cas, voilà, il y a, en plus, on se connaît depuis des années parce que un bon nombre de fondateurs de la revue dessinée sont édités chez Futuropolis. Donc, il y a aussi une volonté.
Et ils sont actionnaires à 5% de notre.
Oui, ils sont actionnaires
à 5%.
Et je pense qu'il y a chez eux une volonté de regarder ce qui se fait dans notre domaine. Donc, voilà, je crois qu'il y a un intérêt partagé, consenti.
Alors il y a une certaine effervescence en ce moment dans le monde de la bande dessinée. Il y a d'autres projets un petit peu comparables. Je pense par exemple au professeur Cyclope, qui est 100% numérique. Hervé et Marion, vous travaillez avec eux également? C'est le cas?
Hein? Oui, je ne sais pas si on a le droit. On n'en a pas parlé contractuellement, je crois que je n'ai pas le droit de parler des concurrents. Oui, moi c'est fini en fait. J'ai fait une histoire de 80 pages qui s'appelait Le Teckel.
En tant qu'auteur,
la
vous...
fiction, ouais. Oui, en tant qu'auteur.
Qu'est-ce qui vous séduit dans ces projets? C'est le côté militant, c'est le fait de travailler avec des amis, j'imagine.
Oui,
c'est les projets éditoriaux.
Que ce soit des nouveaux projets, c'est toujours excitant de faire partie du numéro 1 d'un nouveau projet qui est passionnant. Quoi.
Après, on s'en va.
Et après, on s'en va, oui. Bah. Et non, c'est deux projets complètement différents. C'est de la fiction.
C'est de la fiction.
Pour Cyclope, et là, c'est du reportage, du document. Donc, moi, j'aime bien explorer tout un tas de tous les styles possibles de la bande dessinée. Donc,
Et c'est différent de travailler pour un album ou pour une revue. Il y a une dimension collective qui existe vraiment dans la revue, comme ça pouvait être le cas dans le passé avec les grandes revues qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée.
Là, ce qui est plus différent, c'est comme un magazine papier, mais là, ce qui était différent, c'est le... Moi, c'est... je ne fais pas des planches de BD, j'utilise ce qu'on appelle un peu le turbomédia en diapositive.
Donc des images qui bougent, quoi.
Oui, ça bouge, oui, un peu, ça ne bouge pas.
Enfin, ça dépend. C'est pas la planche, c'est à la case, quoi.
C'est pas la planche, si, un peu, mais qui défile... comme ça, vous irez voir, professeur Cyclope. Si, ça peut bouger, mais en fait, c'est une autre sorte de narration. Je ne sais pas si je le montais en page, si ça collerait pile poil un nombre de pages. On
c'est
utilise.
Du PowerPoint, non? Je ne comprends pas.
Oui, c'est un peu du PowerPoint. Non, mais c'est... Voilà, tu m'as perdu. Non, mais je me souviens au début, quand moi, en tant que blogueuse, on m'invitait à des débats sur où est-ce qu'on va en BD numérique, et on n'allait nulle part du tout, parce qu'on se disputait à la fin. Bah, on ne savait pas, les éditeurs... se disputer avec les auteurs reprochant aux éditeurs de rien faire et les éditeurs disant faites quelque chose puis nous on récupérera, enfin grosso modo. Et bref, personne ne faisait rien parce qu'il n'y a pas d'argent, enfin etc. Et donc je pense qu'il y a ce ras-le-bol de rien voir venir, et maintenant on parle moins dans le vide. Avant on parlait dans le vide, en sachant pas ce qui allait se passer. Maintenant qu'il y a des choses qui se font, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ce que ça va donner, la revue dessinée, Cyclope, et puis... J'espère que ça va marcher, comme ça leur fera les...
Et du côté du dessin, ça demande un travail particulier de penser une planche qui soit à la fois lisible sur tablette et sur papier, ou de penser le passage du blog au papier, comme ça a été le cas pour Tu mourras moins bête?
Non, mais on bidouille, ça, non, c'est pas un problème. Non, c'est, techniquement, moi, ça va. C'est juste une autre manière de s'adresser aux gens, mais le souci, c'est de faire des trucs intéressants, enfin, que ça bouge pas, tant que c'est des bonnes histoires, c'est surtout ça.
C'est celui-là, oui.
Je pense que si techniquement, enfin moi techniquement, évidemment, c'est toujours le même acte de dessiner, de raconter le monde, de travailler avec un journaliste, etc. Mais nous, notre boulot à la revue dessinée, ça va être quand même de donner une profondeur au travail des auteurs, d'abord en amont et puis après en aval, c'est-à-dire de donner du contenu enrichi quand c'est possible sur la partie numérique, mais aussi parce que on vient d'une certaine façon, quand on est auteur de bande dessinée, on s'ennuie profondément parce que on travaille chez soi, seul, sur un espace confiné, et il y a quand même une forme d'ennui assez forte. Alors on traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. On est sur ces trucs, Facebook, machin et tout ça. Et en fait, on a compris avec ces outils-là qu'il y a une forme de viralité extraordinaire. Et nous, on a monté les premiers messages de la revue dessinée autour de Facebook et de cette communauté d'auteurs qui existe et qui est maintenant très importante. Et on a profité de cette viralité pour faire passer un certain nombre de messages. Et je pense que dans le travail qu'on doit faire à partir du boulot des auteurs, il doit y avoir une prise en compte de ces possibilités de viralité pour faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de dire un certain nombre d'âneries quotidiennes, mais avec là des thématiques et des sujets et le boulot des auteurs, d'y revenir, de le présenter, de le contextualiser, de le sourcer, de l'originer, enfin vraiment d'aller donner, de nourrir le récit. Et non pas sur une période très courte comme le font aujourd'hui les éditeurs en sortant un bouquin pendant 3 semaines, etc. Mais parce que nous, on va traiter un certain nombre de sujets d'actualité qui sont là dans l'actualité, qui reviennent, qui comme des serpents de mer. Hein. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on nourrisse ces thématiques-là et qu'on y revienne avec les auteurs, avec les outils que ce présent immédiat nous permet.
À propos des réseaux sociaux, vous avez eu recours à Ulule, qui est un site de financement communautaire. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu cette idée, à quoi ça vous a servi ? Parce qu'il me semble que vous n'avez pas financé le projet sur la base de
Ulule. Non, pas du tout. En fait, alors cette campagne, elle est venue un peu par hasard, et puis finalement, le hasard a bien fait les choses. Économiquement, on est parti d'un principe qui est assez simple, puisque nous sommes tous effectivement soit des auteurs, soit des journalistes, mais en tout cas, on a estimé que tout le travail qui allait être effectué pour cette revue devait être payé. Voilà, je le souligne parce que c'est pas forcément toujours le cas des projets qui se montent. Et donc, pour faire ça, comme nous n'avions pas beaucoup d'économies les uns les autres, nous avons fait ce qu'on appelle une levée de fonds. C'est-à-dire qu'on a été d'abord contacté par un petit groupe de collectionneurs de BD qui, par ailleurs, dans la vie, sont avocats, financiers, traders, bref, des gens qui ont un peu d'argent et qui étaient prêts à nous soutenir et à investir. Futuropolis est arrivé en même temps, et donc on a fait une levée de fonds qui nous permet de financer la sortie, la création de la revue et à peu près un an de publication pour donner une chance au projet de s'installer. Et puis, au printemps dernier, en fait, on s'est dit qu'il serait intéressant, on avait vu un peu monter des projets de financement, de création, de financement de projets de presse dans les plateformes de crowdfunding, donc comme on les appelle, donc qui d'habitude étaient plutôt réservés au départ, vous savez, c'était pour financer un album, un film, etc. Et il y a 2-3 projets qui avaient pas mal marché, et là on s'est dit ça serait intéressant en fait de faire une campagne comme ça, mais en détournant un petit peu le concept initial, c'est-à-dire que nous c'était pas pour nous financer, mais c'était en fait pour se créer un premier noyau d'abonnés en fait. Puisque une des clés de l'équation économique d'une revue comme celle-ci, c'est aussi d'avoir des abonnés qui sont à la fois des lecteurs fidèles, mais qui sont aussi des lecteurs qui vous assurent une trésorerie, ce qui est très important quand on est une petite entreprise. Voilà, et donc c'est comme ça en fait qu'on a travaillé avec Ulule, en montant donc une campagne de crowdfunding qui a duré 3 mois, qui nous a permis de recruter 736 abonnés dans un premier temps, qui sont aujourd'hui 994 si j'ai bonne mémoire. Voilà, on est arrivé à peu près à 1000 abonnés, ce qui est pour nous super parce que...
Avant même que la revue sorte.
Voilà, c'est avant que le premier numéro, il y a 1000 personnes qui nous ont fait confiance, donc c'est plutôt assez encourageant. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait, cette campagne de crowdfunding. Moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose sur peut-être ce qui change par rapport à la question que vous posiez sur le travail qu'on peut faire avec les auteurs. Là, il y a quand même peut-être une différence par rapport à la démarche d'un album classique, c'est que on a d'abord, il y a un travail éditorial qui est assez important en amont en fait. Alors évidemment qui est tout à fait invisible pour le lecteur, mais qui consiste à se poser la question de si vous voulez, de mon point de vue en tout cas de journaliste, il y a assez peu de dessinateurs aujourd'hui en France et un peu dans le monde qui sont vraiment capables de faire de la BD reportage. Je le dis d'autant plus facilement que les deux auteurs qui sont là en font partie, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un œil de reporter et qui ont la capacité à transformer voilà, ce qu'ils ressentent, leur vision d'une certaine réalité en dessin. Mais donc, comme il y a assez peu de gens comme ça, on les compte un peu sur les doigts d'une ou deux mains en France en tout cas, une grosse partie de notre travail, c'est aussi de créer des binômes de journalistes, souvent universitaires, auteurs, en tout cas des gens qui maîtrisent un propos, un sujet, avec des dessinateurs qui vont avoir et le style, et l'intérêt, et la qualité pour le traiter. Et ça, c'est, je dis souvent, on a un peu un rôle de marieur, comme tous les marieurs, parfois on fait de bons choix, parfois c'est moins évident, mais il faut arriver comme ça à créer des binômes de travail et qui donnent des résultats qui sont excellents, souvent parce qu'en fait on arrive à allier la qualité, la rigueur autour de la maîtrise d'un propos avec toute la puissance de l'imaginaire, de la poésie, des qualités narratives qu'apportent des dessinateurs. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel de notre travail.
Alors, avant de parler du reportage dessiné, avant que vous en disiez plus sur le projet éditorial, j'ai une petite question technique sur le côté informatique. Donc, la revue sort en papier et sur tablette iPad. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce parti pris, à la fois d'avoir choisi Apple et pas Android ou d'autres supports, et la tablette plutôt que le format web et Internet?
Alors, on a aussi un site, la revuedessiné.fr, où il y aura d'ailleurs beaucoup de choses qui seront entre deux parutions et qui seront différentes de ce que on trouvera dans la revue papier ou numérique. Le choix d'Apple, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, Apple en France, c'est 80% du marché. Pour vous donner une idée, une application sur Apple, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un investissement qui est quand même lourd pour, une fois de plus, un chiffre d'affaires à venir qui nous est parfaitement inconnu aujourd'hui. Peut-être qu'on en vendra 50 ou 5000, on ne sait pas. Voilà, donc là y a un parti pris qui est économiquement très simple.
Vraiment pragmatique.
Voilà, pragmatique. Si tout ça marche très bien, si, je ne sais pas, moi, Android représente 50% des usagers demain, on s'y mettra, on n'a pas de tabou particulier là-dessus.
D'accord. Alors avant d'aborder le contenu de la revue, je vous propose qu'on voit une petite vidéo que vous avez réalisée il y a un certain temps déjà. Une note d'intention en fait. Ça date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité.
Bah oui, on avait préparé ça pour Angoulême.
Ouais. Voilà. Donc il y a un an, c'est ça?
Neuf mois, oui.
Alors la bande dessinée de reportage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez le définir en deux mots?
Vas-y, je te fais. C'est beaucoup de choses. C'est ça, le
problème. Alors c'est un genre qui a le vent en poupe depuis quelques temps. Il y a une revue comme 21 qui a largement contribué à populariser le genre. Il y a des auteurs qui ont été récompensés à Angoulême. Des grands artistes qui creusent cette veine depuis plusieurs années, comme Joe Sacco, Davodo.
Si on fait un tout petit peu d'histoire, la BD reportage, c'est 1992, une première série que fait Joe Sacco, donc, qui est un Américain d'origine maltaise, qui au départ d'ailleurs était journaliste de base, et qui n'arrivait pas à vendre ses piges en fait à la presse américaine. Et comme il dessinait bien, il s'est dit tiens, les histoires que je raconte et que je ne vends pas aux grands journaux, peut-être que je pourrais les dessiner. Et c'est comme ça qu'il a fait une première série qui s'appelle Palestine, qui racontait un peu le quotidien des gens dans les territoires palestiniens, et qu'il a diffusé à l'époque par une petite maison d'édition dans des espèces de fascicules publiés à New York. Et puis donc il y a eu Joe Sacco qui est toujours en activité et qui est bien connu maintenant, notamment pour Gaza 56, qui est un album tout à fait remarquable, qui est un album d'enquête d'ailleurs, Gaza 56, je souligne, parce que je pense que dans la dimension de la BD reportage, il y a une grande contradiction, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est que dans la BD reportage, c'est que le dessin, c'est une représentation qui est d'emblée subjective pour le lecteur. C'est-à-dire quand on voit une bande dessinée, on sait que ce n'est qu'une représentation de la réalité. Or, dans le reportage ou dans les canons journalistiques un peu classiques, notre ambition, c'est non pas d'aller vers une objectivité qui est tout à fait chimérique, mais d'aller avec le plus d'honnêteté possible vers une représentation la plus juste, la plus honnête de ce que peut être ben, une réalité donnée. Ça, c'est du reportage ou une enquête quand on en fait. Voilà, donc il y a quelque chose en fait d'un peu antagoniste au départ entre ces deux points de vue, mais si vous y réfléchissez bien, la BD a des qualités propres, des qualités narratives qui lui permettent de représenter une forme de réalité qui n'en a pas d'autre. Moi je donne souvent cet exemple. Là, moi, j'ai préparé pour le numéro 2 une histoire sur la vie d'un marchand d'armes. Et dans sa vie, à un moment donné, il a une réunion, il doit régler un différend commercial avec des gens qui ne l'ont pas payé. Et donc, bah voilà, on sait, journalistiquement, on sait que la réunion s'est passée à telle date, dans un hôtel de luxe à Genève. On sait qui était autour de la table, ce qui se sont dit, comment ça s'est passé, etc. On a tous les éléments d'information, sauf qu'il n'y a pas une photo, il n'y a pas une vidéo de tout ça. Et bien, par la BD, on arrive au miracle à reconstituer et une forme d'ambiance et donc toutes ces informations et à lui donner une autre vie en fait et une autre forme de compréhension. Voilà, moi je résumerai un petit peu la BD reportage comme ça. En tout cas, dans l'art du dessiné, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être à la fois le plus juste possible sur l'aspect reportage, mais aussi beaucoup sur l'enquête. On a à cœur, je pense, d'essayer de développer ce genre.
Hervé, Marion, puisque vous avez le micro, vous définissez comme des journalistes ?
Non. Non, moi je fais vraiment un travail d'auteur. Alors j'ai pu faire une sorte de reportage, mais avec un œil d'auteur finalement, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc un peu hybride, qui est justement dû au médium. Parce que j'avais parlé des meetings de la campagne de 2012 sur un blog qui était hébergé par Le Monde. Hop, il y a une mouche, pardon. Et moi, je suis pas vraiment de reportage pour l'instant, ça m'intéresse, hein, ça me dirait bien. Je suis plus dans le document, finalement, dans la revue dessinée. Bon, là, la mouche se pose sur moi. Donc là, on est en direct, vous voyez, une forme de reportage. Je peux vous commenter ce qui se passe en direct, là, c'est chaud.
Mais nous, en fait, on a dans la revue dessinée, on a pris le parti de ne pas faire de fiction. Donc, d'une certaine façon, voilà.
Non, mais on parle de la réalité, oui.
C'est oui, on parle. Oui, 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 mais
c'est avec un œil d'auteur.
Tout en assumant une forme de subjectivité, donc c'est ce qu'on disait.
Il y a cette forme de subjectivité, et puis surtout, pour moi, il y a l'utilisation du langage de la bande dessinée qui permet, ce que je disais, c'est un peu David, mais qui permet d'avoir plusieurs niveaux de traitement. On peut passer du symbolique à un mode narratif très facilement, une case. On peut utiliser toute la palette que permet le langage très structuré maintenant de la bande dessinée. Et ce langage-là, pour l'instant, l'information, d'une manière un peu curieuse, ne s'en est jamais emparée. Ils le font d'une manière un peu data journalistique, un peu comme ça. Mais je pense qu'il y a un apport énorme que la bande dessinée peut amener. Et nous, dans notre boulot d'éditeur à la revue dessinée, d'essayer de mélanger justement avec, pourquoi pas, de la photo, pourquoi pas, enfin, un certain nombre d'autres outils, pour être le plus expressif possible par rapport à un état qui est celui, en effet, de relater quelque chose. Et je crois vraiment qu'on a une super carte à jouer parce que aujourd'hui, vraiment, on est arrivé à un niveau de complexité, d'abord de lecture du public qui comprend très très bien immédiatement un dessin, le sens du dessin, le sens de... Il y a vraiment un langage très très architecturé et donc on peut, nous, maintenant, avec ça, je crois, exprimer vraiment des choses complexes et très profondes. Voilà.
Alors il y a une grosse différence entre le reportage écrit et la bande dessinée, c'est le rapport à la temporalité, puisqu'une bande dessinée, ça met assez longtemps à être dessinée, à être créée. Est-ce que c'est possible de parler d'actualité dans une revue de bande dessinée ? Oui ?
Ça peut être vite fait, en fait, un reportage en dessin. Oui. Le problème, c'est que... Oui, aussi, mais... non, mais le problème, c'est que là, c'est un trimestriel, donc ça peut pas être dans l'actualité super chaude. Mais ça peut être... Un reportage en bande dessinée peut être fait très vite. Hein. Oui. Parce que, de toute façon, même en audiovisuel ou à la radio, après, il y a du montage, à moins que ce soit vraiment en direct, mais... Bon, donc, finalement, c'est aussi...
Je pense que c'est une des origines de la crise de la presse qu'on connaît un peu en ce moment, c'est qu'on se rend bien compte quand il y a un événement qui se déroule et que toutes les chaînes d'information continuent de se mettre dessus, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'on vous raconte un truc, personne ne comprend ce qui se passe en général. Et avec, alors ça, ça tient à notre rythme de publication et aussi aux contraintes de fabrication de la bande dessinée. On retrouve par cette temporalité longue un moyen de donner du sens à la matière sur laquelle on travaille. Marion racontait comment elle a travaillé sur les coulisses de la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est pas en y allant une demi-heure comme pourrait le faire une équipe de télé qu'on enverrait.
Alors comment ça se passe concrètement? C'est carnet de croquis, dictaphone?
Déjà en amont, j'ai eu l'idée de ce reportage grâce à une généticienne dont l'ami ethno-botaniste connaissait un éthologue qui donnait des... qui avait travaillé à la ménagerie. Alors lui, son sujet d'étude, c'était est-ce que les singes savent si une plante est dangereuse pour lui ou pas. Donc il leur passait du basilic, des plantes pas bonnes, des orties, pour voir s'il les mangeait ou pas, ou s'il savait soigner avec, parce qu'ils le font dans la nature. Et donc c'est marrant, le gorille, lui, il bouffe tout. L'orang-outan, il regarde, il voit ce que fait le plus vieux. Et les chimpanzés n'y touchent pas. Alors lui, c'était super intéressant. Il m'expliquait que ça dépend aussi de l'estomac. Le chimpanzé a un peu le transit un peu fragile. Le gorille, il peut tout bouffer. C'était vraiment passionnant. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens les éthologues qui travaillaient. Mais ils sont au-dessus de la singerie, il y a des bureaux. Et j'ignorais qu'au milieu des visiteurs, vous avez des gars qui chronomètrent des animaux, qui notent ce qu'ils font très discrètement. Ils vont passer une journée devant, comme vous, et ils vont aussi noter ce que vous faites, relativement. Et donc, c'est grâce à lui que je suis entrée en contact avec le directeur, et il a fallu le convaincre, ce qui n'était pas évident, parce que j'ai l'air d'avoir 12 ans, je fais de la BD, je ne peux pas leur montrer la revue pour laquelle je travaille, donc... Au début, il s'est dit oh, « bon, c'est pas dangereux ». Mais ça a pris plusieurs temps parce que je suis pas journaliste, justement. Et en parlant avec le directeur, j'ai réalisé que j'avais pas du tout travaillé la partie historique de la ménagerie, parce que ça explique plein de choses. Si les enclos sont petits, c'est parce qu'il y a aussi les monuments historiques qui veulent pas qu'on y touche. Enfin, il y a du patrimoine derrière. Et donc... j'ai dû me retourner à la bibliothèque, j'ai tout potassé. Ensuite, je suis retournée, j'ai vu une vétérinaire. Et en plus, j'y suis retournée, je suis allée passer une journée entière avec le soigneur. Tous les soigneurs, j'en ai fait 4-5. Je ne prends pas beaucoup de place, je les suis, mais je regarde tout. Et c'est vrai qu'il y a des endroits... si j'avais dû faire ça pour le blog, ça aurait pris 6 pages. Là, j'en avais 28 pour m'exprimer. Alors, j'ai tout regardé. J'ai pris des photos, mais je ne peux pas les... publié, mais par contre je peux dessiner le frigo d'une ménagerie avec tous les poussins congelés, les rats, tous les détails croustillants qui passent mieux en dessin. Enfin, ça dépend.
Et aller sur place, rencontrer des gens, c'est quelque chose que vous faisiez déjà pour le blog ou c'est nouveau?
Oui, j'aime bien faire ça. Alors là, la particularité, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas mon travail. Alors que d'habitude, je vais voir un chercheur qui est souvent jeune, qui connaît mon travail. Il sait que je vais un peu très mal le dessiner, que je vais regarder des trucs et après, il se marre. Ça fait rire ses collègues. Mais là, lui, eux, ils ne connaissaient pas. Donc, il a fallu les prendre un peu autrement. Je leur envoyais des croquis au fur et à mesure, comme pour les rassurer, pour leur dire voilà.
Ils étaient rassurés.
Ah, ils étaient contents. Et c'était quoi la question?
C'est
cool. Ah oui. Donc j'avais l'habitude de voir des chercheurs, puis de fil en aiguille, j'en rencontre et. Mais c'est moi j'adore ça. Donc après j'arrive à faire le tri entre ce qui est pas très intéressant et ce qui est visuel, ce qui sera pas visuel, ce qui sera chiant, filtrer les informations moi j'aime bien ça.
Alors à propos de visuel, je vous propose qu'on voit une deuxième vidéo, comme ça les choses seront un petit peu plus concrètes. C'est une vidéo que vous avez réalisée il y a un certain temps déjà également. Qui permet de voir des images, des sommaires du numéro 1, mais du numéro 2 également. Hein. Donc la deuxième vidéo. Alors c'est un vieux truc, mais... trouve personnellement que cette vidéo est particulièrement réussie, d'abord parce que les images passent très bien sur, sur l'écran, d'autre part parce qu'on peut constater qu'il y a une vraie variété de sujets, de traitements graphiques. C'est assez appétissant.
Oui, enfin, d'abord, il y a beaucoup de choses là-dedans qui n'ont pas vu le jour ou qui ne verront pas le jour, d'autres qui sont effectivement dans le 1 et qui sont dans le 2.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du sommaire du numéro 1?
Oui, je peux vous parler du sommaire du numéro 1. Il y a d'abord une volonté éditoriale de ne pas être d'avoir un esprit de chapelle. C'est-à-dire qu'il y a en effet un désir d'être pluraliste, d'avoir plusieurs styles de dessin. Moi, je me rappelle quand j'étais un lecteur de PIF, quand j'étais jeune enfant, jeune homme, je lisais Docteur Justice, et il y avait toujours cette bande dessinée Corto Maltese qui était évidemment un peu étrange, un peu étonnante pour un môme de 10-12 ans, et qui pourtant, face à l'histoire, s'est imposée comme étant celle qui sans doute restera dans le paysage, quoi. Donc nous, on a aussi cette volonté-là, c'est-à-dire... On va essayer de s'adresser à un public large, de ne pas être du tout particulièrement adressé à tel ou tel public.
Il n'y a pas d'esprit de chapelle, mais il y a un côté générationnel, non ?
Ah oui, écoute, on est dans notre période, quoi. Donc il y a cette volonté, oui. Et puis surtout, on a un réseau. Il faut quand même reconnaître que on est tous comme ça depuis 10 ou 15 ans dans la bande dessinée. On se connaît très bien, à peu près. On est tous amis, mais on a des registres différents, on a des publics différents, et moi je fais le pari qu'il faut aller chercher tous ces publics-là, qu'il faut donner aux gens l'accès à un certain nombre d'auteurs, parfois plus compliqués, parfois plus difficiles. Moi je cite par exemple Georges Gonzalez.
Il n'est pas nécessaire d'être nos amis pour travailler avec nous.
Ça va de soi. Mais voilà, on démarre évidemment toujours avec les gens qui sont dans un périmètre autour de nous, là, mais par exemple, je parlais de Georges Gonzalez qui a fait le récit sur Allende. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Oh, c'est bizarre ce dessin », etc. Moi, je trouve ce dessin formidable et je fais le pari que dans quelques années, Georges Gonzalez sera un très grand dessinateur de bande dessinée. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais voilà, c'est un type qui est capable, qui fait, par exemple, là, j'ai vu la couverture du New Yorker. Tu vois, c'est un type qui a une qualité graphique extraordinaire, mais qui a un dessin assez difficile d'accès. Alors, il faut composer avec tout ça. Donc, je peux rentrer dans le détail, mais
Daniel Blancou, c'était pas un de tes amis ?
Non, je connaissais pas Daniel Blancou. Mais bon, enfin voilà. Donc, il y a évidemment ce que disait tout à l'heure David, c'est-à-dire l'obligation de faire des mariages, d'aller chercher des journalistes sur des sujets. Donc, par exemple, pour Énergie Extrême, qui est un sujet qui est sur les énergies d'après pétrole, notamment le gaz de schiste. On avait un spécialiste qui est Sylvain Lapoix, qui est vraiment le spécialiste en France de ce sujet un peu ardu et technique. Alors on a réfléchi, parce que le sujet est arrivé en premier sans le dessinateur, et on a en effet été obligé de trouver un dessinateur dont le dessin permettait une compréhension assez facile de ce truc qui était on va traiter ça sur 3 livraisons, donc 90 pages. Il y a une première partie qui est un peu technique, puis ensuite qui va aborder plutôt des problèmes politiques. Sur cette partie technique, il fallait que ce soit très facilement accessible. Donc voilà, là par exemple, il faut tenir compte de ces éléments là pour choisir un dessinateur. Donc alors je sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail de la livraison du 1, mais Il y a évidemment nos amis, Marion. Hervé.
Marion a parlé de ce qu'elle avait fait. Ouais. Hervé, la chronique Passion Malte.
Oui, c'est la saga de l'informatique et des jeux vidéo, quoi, depuis la naissance de l'algorithme, l'invention de l'algorithme au 6e siècle avant Jésus-Christ par les Chinois, jusqu'à aujourd'hui, quoi. En retraçant les grandes étapes, les grandes inventions, la machine de Turing.
Donc il y a un scénariste.
Oui. Alors moi, je fais le travail de journaliste et d'historien en recherchant les informations, en recoupant. Je travaille avec un copain qui s'appelle Marc Caillé, qui est chercheur aussi en informatique, qui vérifie un peu tout ce que je peux raconter. C'est le même genre de travail que j'ai pu faire pour mon petit livre rock ou
sur la musique.
Sauf que là, je voulais pas le dessiner, je voulais. Je voulais travailler avec Adrien Méniel qui donc dessine je voulais que ce soit un peu différent de que ce que je pouvais faire pour le livre rock ou cinquième ou la cinquième où là j'illustrais le propos en l'occurrence. Point final. Là, je voulais que, comme au début, en plus, c'est assez technique, justement, ça peut paraître un peu ardu au début, parce que là, on est vraiment à la genèse de l'informatique. Après,
on a une image, on peut voir peut-être le travail d'Hervé sur l'écran.
Là, je voulais un dessinateur qui désamorce un peu le côté super sérieux et scientifique de. Bon, là, c'est les pages de présentation, c'est pas tout à fait représentatif à 100%, mais bon, ça sera un peu plus. Bon, c'est pas tout à fait la même mise en page, quoi, mais bon, on a vraiment les faits année par année des grandes inventions et des grandes étapes de l'informatique. Et Adrien qui illustre ça avec une petite pirouette visuelle en faisant un petit gag à chaque fois. Quoi. Et il y a de l'humour, c'est important. Non, mais c'est ça que je voulais faire et que je veux faire aussi pour mes autres livres du même genre, c'est d'être sérieux dans les faits. Qu'on sente que le travail a été fait pour se documenter, qu'on dit on ne raconte pas n'importe quoi, mais qu'après on peut se permettre visuellement d'illustrer ça comme on veut et de façon plus avec un point de vue plus personnel, quoi.
Et d'une manière générale, si on veut résumer un petit peu le sommaire de ce premier numéro et ce que sera, je pense, ce que seront les suivants, c'est qu'on ne veut pas raconter des histoires exotico-romanesques à l'autre bout du monde parce que c'est une belle histoire. Nous, on s'est dit collectivement que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de décrypter les grands enjeux de l'information, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la question de l'énergie, notamment. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une longue enquête sur la question autour des libertés numériques, autour de l'affaire Amesis en Libye, donc comment une grande société française a vendu un outil de filtrage du net à un chef d'État qui s'appelait Muammar Kadhafi. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on... Alors, ça ne nous interdit pas parfois d'aller à l'autre bout du monde, hein, c'est ce qu'a fait Christian Caillot en montant à bord d'une frégate de la Marine nationale. Mais là aussi, le point de départ, c'est aujourd'hui, il y a des jeunes de 16-17 ans qui s'engagent donc, dans l'école des Mousses, qui a rouvert il y a quelques années. Quelles sont les motivations de ces jeunes et pourquoi est-ce qu'ils partent vers ce genre de métier ? Voilà, et à chaque fois, l'idée, c'est d'essayer d'éclairer un peu notre quotidien d'aujourd'hui, voilà, et en ayant aussi, en favorisant une approche assez pédagogique dans tous les sujets qu'on aborde, à la fois le reportage, les enquêtes et les chroniques.
Alors, l'heure tourne, je vous propose qu'on laisse la parole au public, au cas où il y aurait des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou poser une question aux auteurs ou aux membres de la rédaction ?
Bonjour, bravo pour votre livraison qu'on va découvrir dans quelques minutes, je crois. Une double question. Un, sur le mode de financement passé par KissKissBankBank crowdfunding, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Pourquoi vous êtes lancé dans cette expérience de financement, alors que vous auriez pu chercher d'autres sources de financement ? Est-ce que c'est par défaut ? Et la deuxième chose, c'est plus par rapport à la tablette et tout ce qui est numérique. J'ai vu un petit logo de caméra. Est-ce que vous allez réfléchir à un mode narratif ou de récit graphique à adapter pour la tablette et le web, même si c'est pas tout à fait la même manière ? Est-ce que vous allez travailler dans ce sens-là, ou alors votre énergie est concentrée sur le papier ? Et en fait, ce seront des bonus, mais pas au sens élaboré, poussé du terme, parce que ce n'est pas le temps pour ça.
Alors, je réponds à la première question, ce serait la deuxième. En fait, sur Ulule, donc, on n'a pas... Oui, c'était Ulule, mais ce n'est pas grave. C'est à peu près la même chose. C'était plus une campagne de recrutement d'abonnés, vraiment, hein, puisque... de mémoire, ça nous a rapporté 35 000 euros, alors que le financement de la revue est beaucoup plus élevé que ça, et qu'on est passé par une levée de fonds classique auprès d'actionnaires, et nous conservons, pour info, 82% du capital. Quand je dis nous, sont les 6 cofondateurs de la revue. Voilà.
Sur la partie numérique, la première étape pour nous était de mettre en place quelque chose qui était très lisible. Donc il y a évidemment cette revue papier, il y a cette application numérique où on n'a pas cherché du tout à faire une œuvre technologique très performante. On a cherché la lisibilité et la simplicité de lecture, le confort de lecture. Après, les expériences vont arriver, mais il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on y réfléchisse, qu'on va... En effet, par rapport au site, par rapport à l'application numérique, il faut qu'on trouve comment utiliser tout ce matériel avec comme souci permanent de garder la lisibilité. On ne veut pas faire un arbre de Noël, on ne veut pas se lancer dans des trucs qui sont... C'est vraiment pas notre problème pour le moment. On ne veut pas se lancer dans des expériences graphiques délirantes parce que on a beaucoup de choses à construire. Déjà, travailler ensemble des auteurs de bande dessinée et des journalistes, ce n'est pas si simple. Et donc, pour nous, la priorité des priorités, c'est la lisibilité et l'accessibilité par les publics sur nos reportages. Donc vraiment, ça, c'est la priorité. Après, je pense qu'en effet, une fois qu'on aura installé la revue dessinée et ce rendez-vous, alors on va se lancer un peu plus dans des formes de labos, de recherche sur des traitements, sur même en termes numériques, un mélange de tout un tas de trucs, un rapport texte-image qui sera différent, etc. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif.
Si vous êtes très fan d'innovation, il y a une revue qui s'appelle Symbolia Magazine, qui en est à son quatrième ou cinquième numéro là. C'est fait par une équipe de Chicago, de journalistes, web designers, etc., et qui est assez innovante en la matière. Avec moi, je suis abonné, avec des résultats qui sont parfois super intéressants. Parfois, franchement, c'est pas très lisible, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu le risque de l'innovation. Et effectivement, nous, on privilégie d'abord une forme de pédagogie sur le fond et de lisibilité de ce qu'on veut faire. Et puis, petit à petit, on va essayer de complexifier les choses, y compris technologiquement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Vous disiez aussi qu'il allait peut-être avoir des contenus différents de la revue dessinée sur votre site internet. Du coup, ceci, il serait de quelle nature ?
Il y a évidemment un problème de temps, de timing. Un trimestriel, c'est tous les 3 mois. Alors, je parlais tout à l'heure, par exemple, de la possibilité que nous allons offrir aux auteurs de revenir sur leur sujet. C'est-à-dire qu'il y a une livraison avec la revue sur un reportage qui peut faire, par exemple, Christian Caillot, 50 pages, etc. Et on peut, auparavant, avoir une forme d'information sur ce que va être ce reportage, ce making-of, et après, en amont, sur la réaction. Le site, par exemple, aura une partie ouverte au public pour intervenir. Par exemple, on parlait d'Amesis tout à l'heure, ce service de surveillance de l'Internet libyen. C'est évident que si on met ce truc-là en ligne avec c'est Jean-Marc Manac qui a fait ce reportage, il va y avoir sans doute beaucoup de gens qui vont réagir à ce truc. Jean-Marc va continuer son enquête et donc il la complétera sur notre site. Donc l'idée, c'est d'avoir une rythmique qui soit différente entre le site et la revue. On va aussi avoir, par exemple, du dessin de presse. On va avoir Loïc Sécheresse, James et Thibaut Soulcier qui vont commencer autour du 20 septembre prochain une parution hebdomadaire de dessins de presse, soit sur des thématiques qu'on mettra en place avec eux, soit sur une libre interprétation de l'actualité selon leur bon vouloir. Et donc il y aura comme ça des rendez-vous qui seront déconnectés de du rendez-vous papier. Alors, il y a aussi un partenariat avec France Info qu'on va mettre en place là, la semaine prochaine. D'ailleurs, il va falloir y retourner parce qu'il y a des trucs à finir. L'idée de France Info, c'est une rubrique qui va s'appeler Trait d'info, où on a convenu avec les équipes de France Info qu'il fallait revenir sur l'actualité ou traiter l'actualité qui est à venir avec du son et avec du dessin. Donc on va utiliser le dessin de France Info, le son de France Info, avec, on va demander à des auteurs de bande dessinée et d'intervenir sur des sujets d'actualité, et on va mettre une mise en scène autour de tout ça. Ce sera un rendez-vous sur le site de France Info, relayé à l'antenne par Olivier Aymon dans la tranche matinale de la revue de presse, et relayé par notre site. Donc c'est des rythmiques qui sont différentes, avec comme... finalité à chaque fois de faire en sorte que la revue dessinée soit ce moment, ce lieu de rendez-vous sur le dessin de reportage.
D'autres questions ? Non. Bon, on est arrivé au terme de cette rencontre. Franck, David, Hervé, Marion, je vous remercie de nous avoir rendu visite. Donc, je vous rappelle que la revue dessinée sort officiellement la semaine prochaine, le 12 septembre. Mais on vous en propose des exemplaires à la sortie de la salle. Je vous rappelle également que Marion Montaigne et Hervé Bourris vont rester encore un petit peu avec nous, le temps d'une séance de dédicace. Donc juste à la sortie de la salle, dans 5 minutes. Voilà, je vous remercie. Merci.